Chapitre 8. Martin Saint-Foin décide de mettre une dent en plus, 52-11, le plus grand braquet. Ça fait des années qu'il n'avait emmené aussi gros. Son compteur oscille entre 48 et 51 km/h. Sur le faux plat du camping du domaine, c'est un sacré exploit. Il connaît un paquet de petits jeunes de l'Arverne Vélo Club qui auraient du mal à prendre sa roue. Et il en remet un peu plus. 53 km/h. Il reste concentré, tête baissée, sur les bandes blanches du ruban bitumé, corps profilé façon TGV, le vent de face glisse sur lui, paraît presque le porter. Martin se dresse sur les pédales et relance encore la machine. Il doit prendre le maximum d'élan avant d'affronter l'ultime épreuve, le col de la Croix Saint-Robert. La quatrième et dernière ascension de la journée. Il vient d'enchaîner la Banne d'Ordanche, le Rocher de l'Aigle et la Croix Morand. Au total, une petite vingtaine de kilomètres de grimpette et pas loin de 1500 mètres de dénivelé. Mais il a gardé le meilleur pour la fin. Le col le plus haut d'Auvergne. 1451 mètres et son final plein vent, sans aucun arbre pour s'abriter. Ok, ce n'est ni le Ventoux, ni le Tourmalet, mais l'ascension répétée des puits n'a rien à leur envier. Il aime ses montées sèches, rapides. Les longs lacets qui permettent de redescendre dans une autre vallée et d'attaquer aussitôt un nouveau col. Surtout aujourd'hui. Il a des jambes de feu. Est-ce la flougnard au rhum ou l'infusion de nectar qui produit son effet? S'il tient à ce rythme jusqu'au sommet, pour le championnat de France vétéran, il lui demandera d'en préparer un tonneau entier. Allez, c'est parti pour 10 km. Et 43 virages de montée. Combien de fois l'a-t-il grimpé? Il sait qu'il ne faut pas partir trop vite. Les premiers kilomètres sont les plus raides. Il se souvient de Bernard Hinault en 78. Il lui avait dédicacé une casquette à baisse au départ de l'étape. Le blaireau lui-même s'était cassé les dents sur les pentes des volcans et avait laissé l'étape à ce loser de Joep Zoetemelk. Qui aurait pu croire, à le voir planté ainsi sur ces montagnes à vaches, que quelques jours plus tard, dans les Alpes, il gagnerait son premier Tour de France? Eh oui, Bernard, les cols auvergnats, il faut savoir les dompter. 6 dents en moins, Martin passe en 52-17. Surtout, ne pas se mettre en danseuse, pas tout de suite. La pente est raide, mais régulière pendant encore 1 kilomètre. Il faut garder de l'énergie pour les lacets. Son cœur s'accélère. 29 km/h. Jamais il n'est allé aussi vite dans cette portion, et il a l'impression de pouvoir encore relancer. Qu'à la pédale, il pourrait décrocher n'importe quel champion. Il prend juste le temps de lever la tête, d'admirer la ligne de crête, une ligne verte, sans glacier ni rocher. Il laisse ses pensées s'envoler, il a 8 ans, il n'a que cela dans la tête, le vélo. Tout l'été, il écoute les étapes à la radio. Mais aujourd'hui, le Tour de France passe chez lui. Il est là, ce 12 juillet 64, dans l'un des virages du géant de l'Auvergne. Il le voit, et il ne l'oubliera jamais. Poulidor l'a fait, à la pédale, il décroche le grand Anctil, mètre après mètre. Le Normand ne sauvera son maillot jaune que pour 14 secondes au bord de l'épuisement. Ce jour-là, Martin a su qui il voulait être. Poupou ou rien. Premier lacet. Première relance, pas plus de 20 mètres, juste pour assurer la cadence. La vie en a décidé autrement. Le destin. Il ne sera ni poupou, ni rien. Comme chacun. Juste un coureur du dimanche, en attendant la retraite, pour être un coureur du lundi au samedi aussi. Le massif des Monts d'Or s'étend devant lui, derrière les mamelons des volcans pelés qu'il doit contourner. C'est la première fois qu'il grimpe le col de la Croix Saint-Robert en hiver. Jamais, de toute sa vie, il ne l'a vu avec aussi peu de neige. Les autres années, à moins d'enfiler des pneus à clous sur les chambres à air, Martin ouvre un peu son maillot. On se croirait en été. Poupou ou rien. Il aurait pu être champion de France vétéran il y a 2 ans, s'il n'avait pas connement laissé filer ses deux échappés bordelais. À l'époque, il n'avait pas assez d'entraînement. Mais aujourd'hui, c'est le moment de tout donner, à partir du 16e lacet. La pente plafonne à 5,7%, avec une bonne trajectoire, il peut parvenir à ne jamais descendre sous les 25 km/h. Peut-être même 28. Ses cannes n'ont jamais aussi bien tourné. Qu'est-ce que Nectaire peut bien foutre dans son thé ? Martin en rigolerait presque de se voir ainsi avaler les kilomètres. Il a conscience qu'il ne sera jamais un grand coureur, seulement un amateur. Mais ça ne l'empêche pas de rêver à sa petite heure de gloire. Une victoire. Lever au moins une fois les bras au sommet. Un bouquet à son nom à jamais planté. Martin jette un dernier regard vers le Puy de Dôme avant d'attaquer les 10 derniers lacets. Il ne sera jamais ni Bernard Hinault, ni Thibaut Pinot, mais il peut au moins être Pierre Matignon. Ce coureur oublié, la lanterne rouge du Tour de France 69, une tortue que le lièvre ce jour-là, le grand Merckx lui-même, ne parviendra pas à rattraper avant le sommet du plus haut des volcans. La plus belle histoire du Tour. Plus que 8 lacets, les plus difficiles. Vent de face, vent de glace. Aucune maison pour s'abriter depuis le dernier buron, pas même une vache. Martin referme son maillot. Il sent pourtant qu'il peut encore accélérer. D'ordinaire, si près du sommet, l'acide lactique tétanise ses jambes des cuisses aux mollets. Cette fois, elle tourne toujours comme des trotteuses de Rolex, même si son cœur bat de plus en plus fort. Le sommet n'est plus qu'à 300 mètres. Il aura toute la descente pour se reposer, pour laisser son pouls redescendre, pour respirer. Un premier coup de poignard lui déchire la poitrine. Une première alerte. Martin regarde autour de lui. Personne. Mettre pied à terre serait trop bête. Il se contente d'un peu moins appuyé, descend une dent, grimace, regrette. Il est tombé à moins de 10 km/h. Il imagine s'il était en course, le peloton le dépassait à toute vitesse, juste avant le sommet. Et lui regardait le wagon filer. Plus que 100 mètres. La seconde pointe s'enfonce dans son cœur. Martin manque d'en basculer de sa selle, foudroyé par la douleur. Il se rétablit pourtant par miracle, continue en zigzagant, sans comprendre ce qui lui arrive. Il est maintenant quasiment arrêté, pousse à peine sur les pédales, juste assez pour ne pas tomber. Il se force à calmer sa respiration, à souffler. Une fois passé le sommet, il n'aura plus qu'à se laisser glisser. 1 mètre. La troisième lame le transperce. Elle coupe immédiatement tous les circuits de communication. Ses mains ne parviennent plus à tenir le guidon. Le vélo tombe sur le côté. Martin n'a même pas la force de retirer ses cale-pieds. Son casque et le cadre de carbone heurtent le bitume. Un bruit d'enclume. Martin ne l'entend déjà plus. Incapable de parler, incapable de se relever, incapable d'attraper le téléphone dans sa sacoche. Il sait qu'ici, au sommet, personne ne viendra le secourir. Il sait qu'il va mourir. Déjà, son cœur cale, en long hoquet, suivi de longues secondes en apnée, où il n'est plus irrigué. Qu'y avait-il dans ce foutu thé ? Est-ce que ce championnat vétéran, il l'aurait gagné ? Aura-t-il droit à son bouquet ? C'est sa dernière pensée. Aura-t-il droit à son bouquet au sommet ? À sa petite croix fleurie ? À quelques mots gravés ? Martin Saint-Foin. Ni poupou, ni rien.